Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale. Pierre Hiverna, bonjour.
Bonjour Caroline.
En fin d'émission, à 12h25, vous proposerez la chronique La Cerise sur le gâteau. Aujourd'hui,
la journée mondiale végane.
Bigre. Bonjour Natacha Crio.
Bonjour Caroline.
Et vous, c'est la Madeleine de, aux alentours de 12h15, le souvenir gustatif d'une personnalité. Qui allons-nous écouter aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on écoute la Madeleine de Patrick Bouchain.
À tout à l'heure, 12h15. Aujourd'hui, notre plat du jour est consacré à la cuisine au temps de la Grande Guerre. Que mangeait-on entre 1914 et 1918 ? Comment s'approvisionnait-on tant sur le front qu'à l'arrière ? Quel rôle a joué l'alimentation des troupes et des civils dans l'issue de la Grande Guerre ? Et enfin, quel impact sur nos pratiques alimentaires a eu le premier conflit mondial du XXe siècle ? Autant de questions que nous allons poser à nos trois invités qui sont trois historiens. Rémi Casals, bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur émérite à l'Université de Toulouse 2, spécialiste de la Première Guerre mondiale, ancien président du collectif de recherche internationale et de débat sur 14-18. Vous avez publié en 2014, 500 témoins de la Grande Guerre. Et cette année, on vous doit la fin du cauchemar sur le 11 novembre 1918, qui a paru aux éditions Privat. Emmanuel Cronier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également une spécialiste de la Première Guerre mondiale. Vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Picardie-Jules Verne. On vous doit aussi des spécialités quant aux cultures alimentaires. Vous avez été la commissaire en 2014 d'une exposition qui s'intitulait « Manger dans la Grande Guerre ». Et vous êtes l'auteur d'un documentaire au menu de la Grande Guerre, l'alimentation au cœur du conflit. Et puis Silvano Cervanti, bonjour.
Bonjour.
Alors vous n'êtes pas spécialiste de la Première Guerre mondiale, mais vous êtes un historien des usages alimentaires et des pratiques culinaires. On vous doit en 2014 un livre sur la cuisine des tranchées qui a été réédité cette année en poche sous le titre « L'alimentation des Français pendant la Grande Guerre ». Voilà, je vous ai présenté largement tous les trois. La première question va être pour vous trois ensemble. On le sait essentiellement par les lettres de poilu, par les témoignages, au front, que mangeait-on ? Rémi Casals.
Alors, il y a une ration théorique qui était suffisante et même quelquefois relativement variée. Mais il y a aussi les colis de nourriture que les familles envoyaient aux soldats. Et c'était là vraiment leur régal. C'était leur pays qui revenait à eux. C'était un avant-goût de leur retour au pays en temps de paix.
On parle, Silvano Cervanti, de rations. Ça veut dire qu'ils étaient rationnés. Il veut dire qu'ils avaient 500 grammes de viande, 300 grammes de patates, riz, de la soupe. Il y avait peut-être
oui,
pas de la soupe dans les colis.
Ça ne veut pas dire rationner forcément. Ration, ça veut dire que c'est les calculs qui sont faits à l'état-major pour pouvoir nourrir les soldats sur le front. Donc, la ration du soldat français, qui a été définie en 1914... peut-être un peu avant, elle est abondante. Sauf que le problème, c'est comment elle arrive, la ration. Parce que le soldat, quand il est au front, quand il est en première ligne, c'est là qu'il est très difficile de lui apporter sa ration. Et puis, il y a aussi les temps de guerre. Il y a la première partie de la guerre qui est une guerre de mouvement. Et là, les fantassins doivent apporter eux-mêmes leur nourriture. Et ils doivent arriver au bivouac, éplucher les pommes de terre, se préparer le repas. Cela va changer en 1915 quand on va instaurer les cuisines roulantes, c'est-à-dire les cuisines près du front. Et là, les soldats pourront être alimentés par des corvées de soupe, des équipes de soldats qui sont chargés d'apporter la nourriture depuis la cuisine roulante jusqu'aux premières lignes.
Mais qu'est-ce qu'ils mangeaient, Emmanuel Cronier ?
Il y a d'une part, il y a la ration qui est vraiment ce qui est servi par les armées, dont le but c'est d'assurer un minimum de 3000 à 4000 calories pour le soldat qui combat, parce que c'est le minimum vital nécessaire à la survie. Ça, c'est une chose. Et pour ça, donc il y a ces calculs dont mes collègues parlaient, et il faut, on divise les rations, parce qu'il y a 75 millions de soldats à nourrir en 1918, et jamais les armées ont été confrontées à ça. Donc là, on est vraiment dans un alignement quelque part, à la fois, pas par le bas, mais ils ont intermédiaire, faut fournir suffisamment pour être opérationnel, et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ordinaire, en fait, la ration qui est quotidienne, en première ligne. Par ailleurs, quand le soldat part au combat, il a sur lui, en fait, dans sa musette, ce qu'on appelle la ration de survie, les vivres de réserve, qui va pouvoir utiliser s'il est tout seul, par exemple à Verdun dans un trou d'obus, qui sont des choses de longue conservation, de la conserve, qui vont être du biscuit de guerre, un pain qui s'est développé depuis la marine au XVIIIe siècle, qui est une sorte de pain azyme très dur et qui se conserve très bien, et puis sa ration d'eau. Et en fait, l'alimentation du soldat, elle varie beaucoup selon le moment et l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire quand il est au combat, déjà, on ne mange pas pendant le combat, évidemment, mais quand il est isolé, il va avoir le minimum. Ensuite, au cantonnement, il va pouvoir avoir les rations fournies par l'armée. Et puis, des petits compléments qu'il va se procurer soit par les colis des familles qui sont envoyés régulièrement et sur lequel il compte pour avoir le pâté qui est fabriqué par le grand-père, l'agneau du grand-père. Il y a aussi le lien, en fait, qui se tisse par ce biais-là. Et aussi par tout ce qu'il va pouvoir acheter dans les coopératives militaires, dans tous les produits civils, en fait, qui arrivent aussi à l'arrière du front.
Vous dites, Emmanuel Cronier, on ne mange pas pendant les combats, mais on peut manger entre les combats. Mmh. Écoutez par exemple ce témoignage d'un poilu, un poilu qui parle des tranchées, de ce qu'on faisait dans les tranchées.
Nous avions chacun des bottes en caoutchouc qui étaient percées le plus souvent possible. Nous avions des cache-nez, nous avions des peaux de mouton et puis on attendait. On attendait que ça vous tombe sur le tout ou bien que les Allemands attaquent. On recevait la nourriture par des gamelles qui venaient de l'arrière, alors on mangeait en général froid. On mangeait ce qu'on pouvait. En général, on mangeait pas mal. Et on avait que ça à faire. Hein. Parce que la bataille, c'est pas la bataille tous les jours. Hein. C'est un coup de fusil tous les 5 minutes, toutes les 10 minutes, avec de temps en temps un camarade qui est touché.
Sylvano Cervanti, ça leur faisait du bien de manger. Vous le dites dans votre ouvrage « L'alimentation des Français pendant la Grande Guerre », le front, c'est aussi un lieu de commensalité, c'est un lieu de convivialité. Manger, c'était un moment de vie important pour eux.
Oui, absolument. Il faut bien voir que le soldat n'est pas toujours au combat, n'est pas toujours en train de charger l'ennemi. Il y a le temps des premières lignes, qui dure entre 36 et 48 heures. Ensuite, ils se retranchent en deuxième ligne et en appui, si jamais il y a une attaque surprise, etc., ils sont là en appui de la première ligne. Et puis, il y a le temps de repos à l'arrière. Et là, c'est là les moments de convivialité. Et comme disait M. Casals, c'est avec les colis. Et c'est extraordinaire, c'est un moment extraordinaire de commensalité au front, parce que le front n'est pas simplement, évidemment, c'est une horreur, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de mort, mais c'est aussi un lieu de convivialité. Et les Français, c'est le moment où ils vont apprendre à se connaître entre eux, parce que au début de la guerre, les régiments sont composés selon les régions. Il y a les Provençaux sont avec les Provençaux, les Bretons sont avec les Bretons, etc. Mais après l'hécatombe des premiers mois de guerre, un tiers des morts de la Grande Guerre vont avoir lieu les trois premiers mois de la guerre, hein, avec la guerre de mouvement. Les Français n'étaient pas du tout prêts à ça. Et on va recomposer les régiments en prenant les hommes là où ils sont. Et donc, des Français qui n'avaient jamais entendu parler une autre langue que leur patois, qui n'avaient jamais eu affaire à d'autres usages alimentaires, ils vont partager le colis au niveau de l'escouade.
Donc ils font tourner le pâté, la concoyote.
Voilà, et ils vont découvrir des choses absolument...
Qu'ils ignoraient
complètement.
Rémi Casals, vous vous êtes livré à un petit tour de France gastronomique à partir des spécialités fréquemment réclamées par les poilus. Dans leur lettre, c'est ce que vous avez appelé les saveurs des villages.
Eh oui, exactement. Alors, j'avais noté tout à l'heure le mot l'agnol. Hein, c'est un mot d'argot qui désigne une eau de vie de mauvaise qualité. Et les soldats, dans leur lettre, opposent l'eau de vie de leur village ou de leur famille à cette gnole assez infecte. Bon, même chose à propos de la qualité des repas. Parce que dans les rations, il y a une notion de quantité, oui, qui est très bien équilibrée, très bien calculée. Mais la qualité laisse souvent à désirer. Quand des soldats vous parlent de la bidoche bouillie qu'ils reçoivent à Perpète...
Donc, on a parlé de la boîte de singe, hein. Il y a beaucoup de boîtes de type cornet de bœuf. Oui. Le singe, c'était ce qui qualifiait la viande de bœuf qui arrivait bon an mal an. Voilà.
Ou bien quand il vous parle de macaroni qui serait juste bon à coller des affiches sur un mur, c'est quand même que la qualité laissait à désirer.
Bon, on mangeait mal, d'accord, évidemment, on mangeait mal, mais on mangeait donc des choses, comme le disait Sylvano Cervetti, qu'on ne connaissait pas.
Exactement, mais par contre, puisque nous sommes dans l'émission qui s'appelle « Les bonnes choses », j'ai un poilu qui fait allusion à toutes ces bonnes choses que nous avons chez nous. et qui viennent sur le front, donc ils viennent le retrouver.
Le pain d'épices de Pithiviers, voilà. Le miel du Gâtinais, le confit d'oie du Gers, les andouilles de Quimper, chaque région s'exprime et on fait tourner entre camarades. Emmanuel Cronier.
En même temps, il faut avoir en tête que ces colis, c'est une toute petite portion et qu'avant tout, s'ils en parlent beaucoup, c'est parce que ça leur manque énormément. Et c'est beaucoup de l'ordre du fantasme aussi, parce que le peu qu'arrive des familles dans les colis, en termes de nutrition, c'est rien par rapport à ce qui constitue en termes de calories, de quantité qui est servie chaque jour, ce qui est l'ordinaire du soldat et qui n'a pas de goût, qui n'est pas assaisonné, dont on ne reconnaît pas la forme. Et c'est un des grands reproches que font les soldats aux conserves. En fait, notamment ces conserves de viande qui prennent une proportion énorme pendant la guerre. On tourne, vous le disiez, à autour de 500 grammes de viande par jour. Un civil, enfin la consommation alimentaire avant-guerre, hein, dans les milieux populaires ou en moyenne, on est autour de 100 grammes par jour. Et c'est énorme en termes de consommation de protéines animales. Simplement, quand on ouvre la boîte de conserve, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça suscite mais énormément en fait, de critiques. Et ça a été tout le problème de l'armée au 19e siècle, dans l'introduction de la conserve en fait, dans les armées, qui n'est pas du tout nouveau en fait, en 1914.
Et vous parlez des émotions, Rémi Casals, vous citez par exemple un poilu, Louis Chaléa, à qui on a volé ses picodons de la Drôme dans sa musette, et il en pleurait.
Exactement,
parce qu'il avait tellement envie de les manger.
Il avait reçu 3 picodons, ces fameux fromages de chèvre, et là on avait volé 2, et il était totalement désespéré en effet.
Alors, il y a le front, il y a les poilus, il y a tous ceux qui se battent, et puis il y a l'arrière. Comment mangeait-on à l'arrière, et est-ce qu'il y a des différences, là aussi, flagrantes, selon les régions, ou je ne sais pas, selon les villes et les campagnes, Silvano Cervanti?
Oui, il y a une très grande différence entre, par exemple, Paris et la province. Entre les villes qui sont sur la ligne de front, comme Reims, par exemple, où la plupart de la population vit dans les souterraines, dans les caves de champagne, hein, on y vit, il y a des naissances, il y a l'école, etc., c'est la vie. Et puis, il y a la vie en province. Alors, en province, selon la configuration, on a plus de difficultés à ce que le ravitaillement arrive dans les villages de montagne que dans les villages de plaine. Mais, en général, les Français n'ont pas à souffrir de la faim. Par rapport à l'Allemagne, par exemple, par rapport aux Allemands. Les Français, tout au long de la guerre, il n'y aura pas de mort.
Ah bon,
de faim.
On a parlé de pénurie,
il y a des pénuries,
de prix
des moments de crise, il y a des moments difficiles, il y a des prix qui flambent naturellement, et là, les pauvres, notamment les ouvriers qui habitent Paris, après la journée de travail, doivent faire des queues une heure ou deux, et quand ils arrivent à être servis, il n'y a plus rien. Ça, c'est sûr, il y a des temps de crise, mais en général, si on observe actuellement ce qui s'est passé pendant la guerre, la France n'a pas à souffrir de la faim. Les Français n'ont pas à souffrir de la faim.
Emmanuel Cronier.
Oui, c'est d'ailleurs une situation qui est assez générale dans l'ensemble des pays alliés. C'est en ce sens que ça a joué un rôle en fait dans la victoire finale des alliés. Ce facteur de l'alimentation qui finalement exprime la manière dont les alliés ont beaucoup mieux compris que les puissances centrales, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, les enjeux finalement de la guerre totale et le fait que dans une guerre qui mobilisait l'ensemble de la population dans les usines, dans les champs, eh bien il fallait aussi nourrir cette partie de la population qui n'était pas au front, mais qui était à l'arrière, dans les usines, dans les champs, et qui avait besoin en fait ça. Et ça, c'est vraiment compris très différent dans les empires, où les populations sont avant tout des sujets, et la relation politique, finalement, le contrat est très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce souci de l'équité, d'une part, entre civils et combattants, et aussi cette compréhension des enjeux qui sont mondialisés déjà à l'époque.
Rémi Casals.
Oui, mais enfin, je pense qu'en ce qui concerne l'Allemagne, c'est surtout le blocus que les Alliés ont appliqué et qui a fait énormément souffrir de faim les Allemands. Si bien que, je l'ai montré dans le livre sur le 11 novembre, ce sont les prisonniers français qui contribuent à nourrir la population allemande. Bon, petitement, sans doute, mais ils ont des conserves d'avance et ils les vendent à la population allemande qui est là, véritablement affamée, totalement affamée.
Alors, messieurs, par quoi désirez-vous commencer ? Poulet froid, pâté de foie gras aux truffes du Périgord ou macron mariné du capitaine Cook?
Avec ce petit extrait de La Grande Illusion, film auquel on pense nécessairement quand on parle de la Grande Guerre et quand on parle aussi de l'alimentation pendant la Grande Guerre. Natacha Triou, c'est l'heure de la Madeleine de Patrick Bouchain, donc.
Oui, Patrick Bouchain qui est l'un de nos plus grands architectes et scénographes, mais il préfère dire constructeur. Nous nous sommes rencontrés près des colonnes de Buren à Paris, installation qu'il a co-réalisée en 1986. Être créatif dans la contrainte, c'est un peu son mantra à lui, mais c'est aussi celui de la cuisine de sa mère. Pour sa Madeleine, Patrick Bouchain nous parle d'un produit a priori pauvre, mais qui se décline sous de nombreuses formes.
Bonjour Madame la Crémière. Vous avez des œufs ?
Mon souvenir, c'est d'abord un produit emballé. C'est-à-dire que pour moi, l'œuf est magique parce que l'œuf possède son emballage. Et quand on ouvre, on casse un œuf, on garde la coquille. Enfin, quand on est à la campagne, on rend la coquille à la poule qui remange l'emballage et qui refait avec ça donc, la coquille de l'œuf suivant. Donc enfant, j'ai toujours été très admiratif de l'œuf. Voilà, comme si c'était un produit magnifique. Et ma mère faisait donc, nous n'avions pas beaucoup d'argent et on avait beaucoup de poules, et donc on avait beaucoup d'œufs. Et afin de rendre très subtile la cuisson de l'œuf, elle inventait toujours des recettes différentes avec des œufs. Donc on savait qu'on allait manger un œuf, mais on ne savait pas comment on allait le faire cuire. Et donc je pense que le goût qui me revient le plus, c'est le mélange des goûts d'œufs. C'est-à-dire qu'elle faisait des cuissons qui étaient donc très subtiles, comme une omelette très fine sur laquelle elle posait des œufs brouillés. Et ces œufs brouillés, elle les mélangeait avec de la confiture. Et la galette, elle la refermait comme un chausson. Et ensuite, elle jetait une toute petite noix de beurre dans la poêle et l'omelette rissolait. Ce qui fait que quand on la voyait arriver dans l'assiette, on pouvait croire que c'était un gâteau qui avait été très compliqué à faire. Et en fin de compte, ça n'était que des cuissons différentes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, même d'ailleurs en parlant, j'en ai l'eau à la bouche. Et je mangeais même un œuf cru, ça me revient aussi, qu'elle mélangeait avec du sucre cristallisé. Et elle le mélangeait dans un petit verre à moutarde. Donc elle cassait que deux jaunes. Et elle me mettait du sucre parce que comme je ne mangeais pas, elle cherchait tous les moyens de me donner des protéines. Et donc, en effet, elle était inventive, mais elle était surtout inventive pour me nourrir. Et puis, je me rappelle aussi de gober les œufs. Ça se faisait beaucoup à la campagne, de faire un tout petit trou, d'aspirer et de faire une farce aux paysans et de remettre de la coquille vide dans un poulailler et voilà, et de ne pas voir tout de suite qu'on avait volé des œufs.
Est-ce qu'ils avaient des œufs pendant la guerre, Emmanuel Cronier, en particulier dans les villes? Je suppose que dans les campagnes, oui, il restait des poules.
Oui, bien sûr, c'était une des chances hein, dans les campagnes, mais j'aime bien cette idée de l'œuf comme un cadeau, en fait, qu'on a dans le témoignage, parce que je pense que c'est exactement ça pour les soldats, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très difficile de se procurer au front, qui fait l'objet d'achats auprès des civils qui sont à proximité du front à prix d'or. C'est très compliqué. Et en ville aussi, c'est difficile et ça fait partie des produits qui augmentent le plus pendant la guerre, quand on arrive à en trouver, au point que certains, sur les balcons parisiens, eh bien, installent des petits poulaillers. Il y a cette espèce de retour de la nature en ville pendant la guerre qui est très spectaculaire, qui est à l'inverse en fait, du mouvement d'haussmannisation. Et le deuxième effet, c'est que se développent pendant la guerre des nouveaux procédés, comme par exemple les œufs en poudre, en fait, qui font leur apparition, alors qu'ils ne sont pas inventés pendant la guerre, mais qui se développent, comme par exemple la marque des œufs en poudre Laitone, qui fait des grandes publicités sur des panneaux 4 mètres par 3 dans Paris à l'époque comme aujourd'hui et qui publie des petits guides pour utiliser ces produits comme par exemple une recette de flan de rhubarbe où les œufs sont remplacés par ce qu'ils appellent un œuf Laitone et qui en fait qui est l'équivalent d'une dose d'œuf en poudre qui remplace en fait l'œuf frais. Et quelque part on est là sur cette voie de développement de l'agro-industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui qui a vraiment fait un pas de géant pendant la Grande Guerre à cause à la fois de la pénurie et puis des besoins de cette tension en fait sur l'alimentation qu'on connaît alors.
Sylvain Nousservanti.
La France, avant la guerre, c'est essentiellement un pays rural. Plus de la moitié de la population, ce sont des paysans. Et même s'il y a eu un grand développement industriel pendant les décennies précédentes, elle entre en guerre, par exemple pour le ravitaillement des armées, c'est le modèle napoléonien. C'est-à-dire que les troupeaux sont amenés sur pied près du front pour être abattus près du front, etc. Donc, ils ont un retard absolument extraordinaire. Et les Français ont la chance d'être alliés aux Anglais. Les Anglais dominent les mers et permettent le ravitaillement depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis l'Australie et depuis les colonies le riz qui est consommé au front vient d'Indochine.
Et alors, d'une certaine façon, et c'est ce que vous dites, Silvano Cervanti, dans votre ouvrage, la Grande Guerre a changé nos pratiques alimentaires, essor de l'agro-industrie, invention des œufs en poudre, des boîtes de conserve qui vont se multiplier un petit peu partout. Et puis, on a fait même des inventions culinaires, des découvertes gustatives. J'ai lu en préparant cette émission que le camembert, il n'a pas été inventé à ce moment-là, mais tout comme, en tous les cas, il s'est ensuite vraiment répandu, voilà, parce que le camembert, pour le faire, il fallait utiliser moins de lait que pour d'autres fromages, donc c'était plus facile à faire et moins cher. C'est-à-dire ça coûtait moins cher en lait, Sylvain Cervanti.
Le camembert, il a une qualité, c'est qu'il est en boîte. Et donc, il peut être transporté, il peut être conservé, et c'est facile. On a, sur le front, on a également les autres fromages, naturellement.
Le picodon, on en parlait tout à l'heure.
Oui,
le picodon,
mais ça,
il n'y en a
ça,
pas beaucoup au front, cela, le picodon, malheureusement.
C'est pour ça que quand il est mis à voler, il en pleurait.
Ceux-là, ils arrivent par les colis. Mais l'armée procure du gruyère, etc. Donc, il y a les fromages. Mais le camembert a son succès. À l'époque, avant la guerre, c'était un produit local que quelques Parisiens connaissaient, c'est tout. Après la guerre, il va se diffuser dans toute la France, grâce également aux réseaux de communication qui vont extrêmement se développer, mais aussi par la demande des revenants du front qui ont goûté cette chose. Les Provençaux qui ont goûté du camembert sur le front, même si c'était pas la meilleure qualité de camembert qui existait, ont ce souvenir. Et c'est, beaucoup de produits alimentaires vont connaître une diffusion nationale après la guerre, parce que il va y avoir une demande des revenants sur ces produits.
Rémi Casals.
Oui, alors il y a également le développement du vin comme boisson nationale, ce qui n'était pas le cas dans toutes les régions de France, mais avec la guerre, on a pris l'habitude de consommer du vin. C'était une bonne chose pour les viticulteurs qui avaient eu des crises de mévente avant la guerre.
Rémi Casals, tout à l'heure, juste Emmanuel Cronier nous expliquait, juste avant la Madeleine, en quoi les Allemands étaient moins bien nourris et peut-être en quoi aussi la faim a été une arme redoutable pendant la Première Guerre mondiale. Votre documentaire, Emmanuel Cronier, le montre. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le manque de nourriture dans l'Empire allemand et dans l'Empire austro-hongrois a été une des raisons de la perte de la guerre?
Ça allait mal, c'était la débandade complète à la fin, et les soldats savaient que leur famille souffrait énormément quand ils allaient en permission. Ils revenaient, quelquefois on a des témoins dans les pays envahis qui voient revenir ces Allemands qui pleurent en ayant vu leur famille vraiment livrée quasiment à la famine. Également, le blocus empêchait les Allemands de recevoir des matières premières pour l'armement. Et tout cela, je pense que le blocus est un élément essentiel de la défaite allemande.
Emmanuel Cronier.
Oui, c'est sûr. Alors, il y a le blocus, hein, qui est le facteur, finalement, qui est commun à l'Allemagne, à l'Autriche hongroise, ces puissances qu'on appelle centrales, justement parce qu'elles ont des difficultés d'approvisionnement et qu'elles dépendaient beaucoup des importations alimentaires pour certaines denrées, comme par exemple le blé russe, avant 1914, et soudain, elles sont coupées, en fait, de ces sources d'approvisionnement. Mais il y a un deuxième facteur qui se rajoute, qui sont les choix politiques, en fait, du gouvernement allemand, qui est aux mains des militaires, en particulier à partir de 1919, aux mains des généraux allemands, qui décident, en fait, qui font ce choix de ravitailler en priorité les soldats, parce qu'ils sont perçus comme finalement les principaux artisans de la victoire, quitte à sacrifier la population civile. Et dès 1916, voire même 1915 pour certains produits, le chardon, on a des pénuries qui sont à la fois beaucoup plus importantes, beaucoup plus précoces et qui touchent des produits de base. On a quand même des affiches en Allemagne qui incitent la population à aller ramasser des glands dans la forêt.
Alors Rémi Casals, est-ce qu'on a des témoignages, est-ce qu'il reste des choses sur ce qu'on a mangé le 11 novembre 1918 ?
Quand j'ai décidé de faire un livre sur ce jour-là, je ne pensais pas du tout à l'alimentation. Et puis quand vous m'avez invité à cette émission, je l'ai relu et j'ai trouvé que l'alimentation était absolument partout, l'alimentation, la boisson. Alors, il ne faut pas croire que sur le front, c'était une soulographie complète. Beaucoup de soldats disent non, on a fêté ça, mais on a pensé aussi aux camarades morts, donc on a fêté sans excès. On a davantage eu des excès à l'arrière, je pense, d'après les témoignages. Bon, ceci dit, tout le monde évoque quand même qu'on a fait un repas, qu'on a mangé ceci, qu'on a reçu des colis, ce sont les Américains qui nous ont invités, et ils nous ont payé toutes les dépenses, avec le contre-coup que les prix augmentent. Et il y a d'autres soldats aussi qui se plaignent de l'augmentation extraordinaire des prix à cause de la présence des Américains.
Oui, puisque la fin des combats n'a pas eu un effet immédiat sur la situation alimentaire ou sous la sous-alimentation qui a largement continué après la guerre. Oui. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle vos ouvrages. La fin du cauchemar aux éditions Priva pour Rémi Casals sur le 11 novembre 1918. L'alimentation des Français pendant la Grande Guerre aux éditions Sud-Ouest pour vous, Silvano Cervanti. Et puis votre documentaire, Emmanuel Cronier, au menu de la Grande Guerre, l'alimentation au cœur du conflit. Puis juste un dernier mot, Emmanuel Cronier, vous lancez une collecte de recettes familiales de guerre qui sont transmises au sein des familles depuis la Grande Guerre. C'est un appel que vous lancez ?
Oui, complètement.
Une collecte ?
Voilà, dans le sens que comme historien, on travaille beaucoup sur les recettes publiées parce que c'est ça qu'on a en fait. Et parfois, c'est difficile de savoir ce qui s'est cuisiné au sein des familles. Donc, on est amené à faire beaucoup d'hypothèses. Dans tous les pays, il y a énormément de recettes cuisinées pendant la guerre qui se sont transmises et qui traînent encore beaucoup dans des cahiers de recettes familiaux. Donc, j'invite les auditeurs.
On mettra peut-être une adresse sur notre page internet.
À aller voir en fait ce qu'il peut y avoir comme recette.
À fouiller dans les greniers.
Qui peut avoir un rapport avec la guerre et aider la recherche finalement aussi à leur manière.
L'appel est lancé. Merci beaucoup à tous les trois. Restez avec nous pour écouter la cerise sur le gâteau. Alors Pierre Hiverna, vous nous l'annonciez en début d'émission, vous allez nous parler de la journée mondiale végane. Elle a eu lieu. Il a eu lieu le 1er novembre.
Oui, le 1er novembre. Et fort heureusement, elle n'avait pas lieu entre 14 et 18, parce qu'avec 500 grammes de viande par jour, comme vous l'expliquiez, ça aurait été très compliqué. Alors elle a lieu tous les 1er novembre. En fait, ça a dû évidemment échapper à nombre de nos auditeurs, puisque la France, dans les sondages les plus optimistes, affiche seulement 0,5% de nos concitoyens qui proscrivent tout produit animal dans leur alimentation. Et pourtant, il ne vous aura pas échappé que la résonance médiatique du mot-clé « vegan » venu d'Angleterre et des États-Unis et qui n'existait à peine dans notre vocabulaire il y a 3 ans, est inversement proportionnelle à cette statistique. Loin de moi l'idée de développer un débat binaire autour de pour ou contre le véganisme, ni a fortiori de me prononcer sur le bonheur d'une planète quasi entièrement végane en 2050. Non, disons que faire preuve d'un certain pragmatisme, celui des flexitariens par exemple, qui prônent une baisse significative de consommation des protéines animales et qui représentent désormais un tiers des ménages français, pourrait nous amener collectivement à considérablement apaiser le débat et à agir dans une temporalité réaliste. Et le premier maillon de la chaîne, celui qui contient d'évidence les éléments les plus philosophiques, symboliques et sociétaux liés au rapport entre l'homme et l'animal, est celui, me semble-t-il, de l'abattage des animaux. Il n'y a donc pas de hasard, le 1er novembre est bien aussi le jour des morts, et la dernière vidéo du collectif lanceur d'alerte L214, tournée dans un abattoir de l'Indre, a opportunément été publiée le 2 novembre. Alors vous me direz, une vidéo de plus ou de moins ne va pas changer grand-chose. Eh bien en l'espèce, si. Car non seulement l'abattoir en question est à taille humaine, en plus il est certifié bio et pour couronner le tout, il a fait, comme les autres, objet de récentes inspections. Réaction de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire sur son compte Twitter, je cite « Je condamne fermement les pratiques cruelles, inadmissibles en France en 2018, révélées par des images insoutenables de L214. Les inspections et audits ne suffisent plus, il faut maintenant contrôler les abattoirs en continu pour mise aux normes et éradication de ces pratiques. »
Est-ce que vraiment un contrôle renforcé va changer quelque chose ?
Franchement Caroline, je ne pense pas. Et c'est là que les flexitariens ont toute leur importance. Notre rapport à la viande s'est totalement détériorée à partir du moment où les industriels l'ont rendu abstrait. À vouloir produire des masses de tranches de jambon rose bonbon sous cellophane pour nous faire oublier l'animal qui s'est fait arracher la cuisse pour le fournir, ou acheter nos blancs de poulet en se demandant où a bien pu passer le reste du bestiau, le lien avec l'animal s'est totalement distendu. Et L214, au fond, ne fait que remettre sous nos yeux ce rapport forcément violent avec l'industrie de masse. Bref, plutôt que de décréter des journées véganes ou des semaines viandards, si nous commencions par soutenir des élevages paysans, ceux de femmes et d'hommes qui aiment leurs animaux et qui pourraient, si on les autorisait, les abattre dans leurs fermes. Le citoyen consommateur redeviendrait alors conscient et responsable, flexitarien pour sûr, et pourquoi pas vegan si bon lui semble.
Merci Pierre Hiverna pour votre chronique. C'est la fin de cette émission. Les bonnes choses se poursuivent en réécoutant en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aigoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour Clément Daté vous souhaitent une excellente journée à l'écoute de France Culture. Dans un instant, le journal.